Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
En arabe, celui qui consomme le hashish, ce sont des hashishins. Parce que ceux qui employaient cette drogue, qui s'étaient réfugiés dans une montagne précisément parce qu'ils l'employaient d'une façon illégale, et ils descendaient dans les plaines, dans des accès de folie, massacrés, ou de non-assassins.
L'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En arrière-fond de notre émission ce matin, vont régner de puissants effluves, accompagnant la quête éperdue de ces paradis artificiels où Baudelaire, avant et après bien d'autres, cherchait des inspirations inédites et des bonheurs fragiles. C'est de drogue que nous allons parler. Ce ne sera point tant pour évoquer leur présence dans la littérature que pour jeter sur elles un regard politique, un regard social, un regard économique. Jean-Pierre Filliu, professeur à Sciences Po, nous en donne l'occasion et nous en inspire le goût en publiant ces jours-ci un livre qu'il a choisi d'intituler, selon un jeu de mots bienvenu, Stupéfiant Moyen-Orient. Stupéfiant Moyen-Orient. Avec lui, nous allons concentrer notre attention sur cette région du monde sur laquelle notre auteur a pris au fil des ans la figure d'un spécialiste hors de pair. Ce sera pour découvrir que l'histoire des drogues, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, y offre une porte d'entrée vers une meilleure appréciation de bien des enjeux de pouvoir dans l'ordre international, certes, mais aussi au cœur des États. Tels, hier et aujourd'hui, la Turquie, l'Afghanistan, la Perse devenue l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen, tous plus ou moins producteurs et consommateurs de drogues diverses, qu'elles soient tirées de plantes naturelles ou le fruit de procédés chimiques. Partout et toujours ont alterné des périodes de répression et des périodes d'exploitation sans frein et sans vergogne. Partout, les organisations internationales ont prouvé leur impuissance. Partout, les gouvernements de ces pays se sont montrés incapables, même quand ils en avaient l'envie, de brider la production, de fermer les frontières comme de réduire des acteurs maléfiques que cimentaient le commerce et la consommation du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium ou encore du récent Captagon. Un monde, en somme, de lucre, de haine et de compromission. Et pour ouvrir notre conversation, je vous propose un reportage sur la récolte de haschich au Liban, dans un village de la Bekaa, sur France Inter, le 9 octobre 2001.
Est-Ouest, au Liban, depuis quelques semaines, la récolte du haschich a débuté dans la plaine de la Bekaa. On estime aujourd'hui à 45 000 hectares la plantation de cannabis, interdit après la guerre du Liban. La production a repris en effet, les cultures de substitution comme la betterave n'ayant pas permis aux agriculteurs de refaire surface. Dans un village de la Bekaa, correspondance de Frédéric Bayol.
Le gouvernement libanais avait l'air ferme en début d'année quand il annonçait haut et fort « il n'y aura pas de récolte de haschich cette saison ». Pourtant, les remorques pleines de cette plante aux vertus tant appréciées n'ont rien d'une hallucination. Étonnante vision qu'il est d'autant plus quand à l'intérieur de ses bennes, affalé sur un tas de haschich, l'agriculteur caresse son fusil. « Que faites-vous là? Où allez-vous ?» Le premier contact est plutôt décourageant, larmes sur les genoux, n'ajoutant rien de rassurant. « On fait un tour pour voir ». Car pour ce qui est du spectacle, rares sont les endroits qui offrent de telles couleurs, ici vert fluorescent, associé à une odeur somme toute enivrante. Une fois le contact établi, il n'est finalement pas difficile de se faire offrir un thé à la Marie-Jeanne ou même un joint, de discuter des difficultés, des recettes engendrées, et finalement d'apprendre que la culture du haschich n'est pas la panacée. « Nous ne roulons pas sur l'or », se plaint l'un des producteurs, « mais si l'on nous enlève ça, alors nous n'aurons plus rien », ce qui explique pourquoi l'État ferme les yeux, et de regretter. Les gens ne s'intéressent qu'au haschich, mais regardez, nous produisons des pommes aussi, ça, tout le monde s'en fiche. Regret d'autant plus amer que cette année, la pluie précoce accompagnée de grêle a détruit 80% de la récolte de cannabis et abîmé une grande partie des pommes. Abbas est le seul de ces producteurs qui accepte de se faire photographier. Les gouvernements libanais, syriens et même israéliens profitent du haschich, justifie-t-il. Du coup, il dit ne rien craindre, pour la culture. Pour ce qui est de la consommation, il préfère se retirer dans sa cabane, où il puise dans sa réserve personnelle. Discrétion envers les autres, légère honte par rapport à Dieu, car consommer ce genre de substance, c'est haram, autrement dit, interdit par l'islam.
Jean-Pierre Philu, bonjour.
Bonjour.
Nous voyons là, avec cette carte postale, le début possible de notre conversation.
Effectivement, elle est très instructive, à la fois pour les couleurs un peu prononcées et les émotions un peu acidulées qu'elle évoque.
Il y a un chromatisme de notre sujet.
Tout à fait. Et puis, il y a comme toujours, la chronologie. C'est fascinant de constater que ce reportage a lieu au moment où le haschich prospère de nouveau au Liban, avec l'aval d'un certain nombre de puissances locales et internationales, et quelques jours avant que les États-Unis déclenchent leur offensive contre les talibans, qui eux avaient proscrit la culture de l'opium en Afghanistan. Donc les uns disent que c'est haram au nom de l'islam, haram, c'est-à-dire interdit, illégal, illicite. Les autres disent qu'après tout, on peut s'en accommoder, parce que dans le Coran, il n'y a au fond que beaucoup de silence sur ces différents stupéfiants.
Et nous allons rejoindre cette période relativement récente, mais auparavant, Jean-Pierre Philu, je pense que, en forme de préface, il conviendrait de rappeler les différents types de drogues que nous allons avoir à rencontrer. Il se peut que quelques-unes ou quelques-uns de mes auditrices ou auditeurs ne soient pas absolument familiers de la pratique de celle-ci.
Effectivement, donc là, les plus anciennes qui sont repérées il y a déjà quelques millénaires, même si l'étendue de leur usage suscite toujours beaucoup de controverses, eh bien c'est l'opium qui est tiré du pavot, l'opium qui, à l'époque beaucoup plus moderne, va lui-même être distillé pour produire la morphine puis l'héroïne. Et puis là aussi, dans une époque plurimillénaire, on a le chanvre qui était surtout connu pour son usage textile, mais où certains ont très tôt trouvé des vertus stupéfiantes, donc ce cannabis qui va donner la marijuana, la feuille, ou qui va donner le hashish, la résine. Et puis il y a les drogues de synthèse, elles modernes.
Les amphétamines. Nous rencontrerons le captagon, voilà, qui prospère. C'est un mot que je choisis avec hésitation, qui prospère actuellement en Syrie. Et puis il y a la homa, et puis il y a le kérak, en liaison avec le crack, et puis le chiché. Je crois que nous ne pouvons pas épuiser cette énumération.
Oui, parce qu'effectivement, les drogues de synthèse, c'est le cas du kérak et du chiché, qui font des ravages dans l'Iran actuel, eh bien il y a une gamme presque infinie. Et on voit que, justement, une des tendances, on y reviendra, de la toxicomanie et des trafics actuels, c'est cette autonomisation par rapport aux drogues de culture et ce passage aux drogues de synthèse qui peuvent être produits à un coût très limité et qui sont totalement libérés du cycle des saisons.
Nous allons commencer par l'Antiquité, comme il convient, en ayant en mémoire cet adage anglo-saxon auquel vous faites un sort, à bon escient, plus la répression est dure, plus les drogues le sont aussi. Dans l'Antiquité, ce n'était pas le cas.
En fait, dans l'Antiquité, il faut être très humble, vu qu'on a des traces limitées. Il faut vraiment se tourner vers des disciplines pointues, la palynologie, l'étude des pollens et différentes formes de réduction des résidus organiques. Et pour l'instant, on a des traces très faibles, alors que, par contraste, la consommation d'alcool, la production, y compris industrielle, de bière, est totalement avérée dès l'Antiquité.
On trouve une trace dans la momie de Ramsès II, nous dites-vous ?
Oui, c'est assez débattu, parce qu'en tout cas, dans les bandelettes, il semble avéré que c'est le fait que du hashish ait été fumé par des gardiens plus ou moins consciencieux du pharaon, qui sont la cause de ces résidus, mais dans les entrailles, dans ce qui avait été embaumé, effectivement, on a des traces de cannabis, de même qu'on a des mentions aussi bien du cannabis que de l'opium dans le papyrus Esber, un traité de médecine qui remonte à 1500 avant notre ère.
On trouve dès ce moment-là ce triple effet des drogues. Je veux dire, elles peuvent avoir un aspect liturgique, me semble-t-il, un aspect récréatif, bien sûr, mais aussi un aspect médicinal.
Alors l'aspect médicinal est incontestable. Il est d'ailleurs repris hein, dans les pionniers de la médecine grecque, dans leurs traités qui énoncent les différents produits pharmaceutiques. L'aspect liturgique, on en a des traces très limitées. On en trouve des traces, hein, ce sont des découvertes archéologiques très récentes par des archéologues israéliens, donc dans le royaume de Juda au 8e siècle avant notre ère, avec des brûloirs qui comportaient du hashish qui était à l'évidence brûlé au cours de cérémonies. Mais là, on parle d'une élite. Hein. C'est d'ailleurs aussi dans cet esprit que l'aoma, le suc des dieux, était consommé par les prêtres zoroastriens de la Perse sassanide. Donc, une élite, un usage religieux, l'usage récréatif, là, la question reste ouverte. Hein. On peut projeter, c'est la concordance des temps, hein, des pratiques actuelles sur l'Antiquité, mais on n'en a honnêtement aucune preuve incontestable.
Il faut toujours regarder du côté d'Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui aime s'attacher à la différence avec des peuples étranges, parle des sites installé à l'époque au nord de la Macédoine, qui se livrait, dit-il, à un rite de purification où, réunis sous une tente chauffée par des pierres incandescentes, ils jetaient du cannabis sur les pierres pour inhaler ensuite des vapeurs. Vous avez foi dans ce que dit Hérodote, Jean-Pierre Filu?
Toujours, l'historia, évidemment. Mais effectivement, on avait sans doute là des rites à la fois de purification et d'exaltation chamanique, vu que Hérodote poursuit son propos en disant que les sites en question sous influence avaient des rugissements de joie qui traduisaient une exaltation profonde et très expansive.
Dans la Bible, des mentions ?
Par ma connaissance, en tout cas de manière incontestable, ceux qui veulent trouver effectivement des échos stupéfiants, en fait, fonctionnent par analogie hein, et déduisent que comme... Hein, mais de là à l'affirmer, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Alors franchissons en revanche un pas jusqu'au monde islamique, qui vous est familier, Jean-Pierre Filu, dans l'héritage de Mahomet, condamnation de l'alcool, mais semble-t-il, dans les sourates, aucune condamnation de la drogue.
Oui, effectivement. Bon, d'abord parce qu'elle n'était à l'évidence pas consommée à la Mecque à l'époque. Et toute l'ambiguïté vient que du fait que le vin est explicitement condamné, mais que c'est l'ivresse, la sakra, qui est jugée illicite, qui est jugée haram, ce qui permettra en fait, après la mort du prophète de l'islam et jusqu'à aujourd'hui, aux savants musulmans, aux oulémas, de se déchirer sur le caractère licite ou illicite des stupéfiants. Et je cite en exergue de mon livre un érudit égyptien du XIIIe siècle qui affirmait « il est interdit d'interdire ce qu'il ne l'est pas » et qui, semble-t-il, était un professeur très suivi à l'université du Caire où ses cours étaient fréquemment sous influence, ce qui ne gâchait rien de l'intérêt de ses disciples.
Sous l'influence chez lui. Est-ce que ça existe toujours à Sciences Po ?
Ah, ça, je ne crois pas. En tout cas, je ne peux me prononcer que pour ma petite personne.
Si on avance dans l'histoire, notamment de l'islam, on trouve, notamment à partir du XIIIe siècle, deux écoles qui semblent s'affronter très clairement.
très clairement. Et donc, il y a cette ambiguïté des textes fondateurs sur le caractère licite ou illicite des stupéfiants en général, et de ce qu'on va appeler l'herbe des pauvres, c'est-à-dire concrètement le cannabis, qui à l'époque n'est pas fumé, mais est consommé par voie orale, les feuilles de marijuana ayant été préalablement cuites, toastées, pour être avalées, y compris à la mosquée. Et donc on a une partie des oulémas, donc des religieux musulmans, qui poursuit cette substance de leur opprobre, et d'autres qui, au contraire, considèrent que c'est un vecteur d'illumination pour leurs exercices mystiques, c'est ce qu'on appelle les soufis. Alors tous les soufis ne consomment pas du cannabis, mais en revanche, les confréries qui ont choisi de le consommer lui accordent une place centrale dans leur rite initiatique et dans leurs exercices mystiques.
C'est là qu'on retrouve le volet liturgique.
Tout à fait, sauf que là, on est passé de l'élite des prêtres, qu'ils soient zoroastriens ou du royaume de Juda dans l'Antiquité, à des confréries qui sont des organisations beaucoup plus importantes, même s'il faut y être initié. On a une bonne partie ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne urbaine qui est rattachée à une confrérie soufie ou une autre. Et donc on a dès cette époque, on parle du XIIIe et du XIVe siècle, à la fois une poésie qui exalte le cannabis, alors qu'on connaît beaucoup plus la poésie musulmane qui exalte l'alcool.
Oui, un versificateur qui propose ces vers. Seuls les idiots, les faibles et les insensibles censurent le hashish. N'écoute pas, ami, l'interdit proféré par les stupides et les envieux.
Oui, celui-là était assez militant, d'autres fonctionnent plus par métaphore, mais on a ce même type d'exaltation, cette idée que grâce au hashish, on rejoint une confrérie d'éclairés, d'illuminés, qui se distingue de la masse par justement sa clairvoyance. Et puis il y a une dimension sociale, de critique, contre l'élite militaire, c'est ce qu'on appelle les mamelouks, donc ces anciens esclaves affranchis qui sont d'origine non arabe.
Qui prennent le pouvoir en Égypte.
Et qui prennent le pouvoir en Égypte au milieu du XIIIe siècle et qui, eux, sont de gros consommateurs d'alcool. L'alcool est cher. L'alcool, au-delà des interdits religieux, n'est pas accessible à la masse de la population, alors que le hashish, lui, coûte trois fois rien. D'ailleurs, on en cultive au Caire, dans un parc qui est au centre de la ville et où on voit dans la littérature de cette époque que régulièrement, il y a des campagnes d'éradication au sens propre et que régulièrement, cette plante fleurit au cœur de la capitale égyptienne, au point qu'il faudra supprimer ce parc, ce jardin, cet espace vert, dans tous les sens du mot vert, pour qu'on cesse d'avoir de la marijuana sous les portes des palais des mamelouks et du sultan.
Parce qu'il y a un effort inverse, vous faites un sort au rôle de ce cheikh Ahmad Ibn Tamiya, qui est une sorte de grand imprécateur contre le hashish. Il dit « Cette herbe maudite est la mère de tous les vices, car celui qui en mange devient soit un cocu consentant, je le cite, soit un prostitué, soit les deux à la fois. Elle corrompt par ailleurs les complexions, c'est l'aspect médical, au point de rendre beaucoup de gens fous et de rendre leur estomac comme une éponge. » Il me semble qu'on trouve là ramassé déjà beaucoup des controverses qui vont durer jusqu'à aujourd'hui.
Ah, totalement. Et d'autant plus que Ibn Taymiyyah est aujourd'hui l'inspirateur des mouvements salafistes, djihadistes, qui, au fond, concentrent l'essentiel de leur violence contre d'autres musulmans accusés de ne pas l'être assez. Et il faut savoir que ce traité d'Ibn Taymiyyah circule aujourd'hui, en France et ailleurs, au service de prêcheurs qui ont une vision de combat de la prohibition à mener contre le hashish. Dans la Damas du XIVe siècle où Ibn Taymiyyah vociférait, ses cibles étaient les soufis, c'est-à-dire ces mystiques que j'évoquais, pour qui souvent la consommation du hashish était banalisée, voire valorisée. Et Ibn Taymiyyah se lançait avec ses partisans contre les lieux de réunion des soufis pour les détruire au nom d'un vrai islam qui s'opposerait au mauvais islam des mystiques et des fumeurs de hashish.
Du côté de la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, l'évolution est toute différente.
En fait, en Perse, même si c'est de là, historiquement, que vient le cannabis, par le biais, là encore, d'une confrérie soufie, c'est très vite l'opium qui va devenir la drogue de choix. Et on va avoir, avec l'établissement de la dynastie Safavide au début du XVIe siècle, qui instaure le chiisme d'État dans la Perse, toute une série de souverains qui sont complètement dépendants de l'opium. Et de même que le hashish à cette époque-là était consommé par voie orale, c'était aussi le cas de l'opium, soit en boulette, avalé à intervalles réguliers dans la journée, soit par des formes de liqueurs ou de milkshake conduisaient à l'extase à l'opium.
Donc on trouve dans toute cette période, et puis nous allons nous rapprocher, Jean-Pierre Filiu, du 19e siècle, on se dessine déjà cette opposition entre ceux qui arborent leur affection pour ces drogues et ceux qui, au contraire, en font à la fois symboliquement, politiquement, économiquement, une sorte de diable qu'il faut pourfendre.
Alors il y a effectivement cette opposition très dure, mais déjà cette vanité des campagnes de répression, vu qu'on voit dans les chroniques que très vite la culture reprend, culture du chanvre, culture de l'opium, la consommation reprend. Et puis déjà à l'époque, il y a le débat sur la fiscalité, avec de grands serviteurs de l'État qui expliquent au sultan, qui expliquent au chat qu'il est totalement aberrant de vouloir prohiber une culture qui, de toute façon, ne peut pas être éradiquée et dont on peut tirer d'importants revenus en la taxant.
Et voilà le volet économique. J'ai lu quelque part que la culture du pavot en Afghanistan d'aujourd'hui constituerait 60% du produit intérieur brut.
Oui, effectivement, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Hein. Quand on pense à la Colombie des cartels d'Escobar dans les années 90, on était entre 6 et 10%. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement une dépendance de ceux qui sont drogués, mais il y a une dépendance d'un certain nombre de régimes, d'États et de systèmes qui ne peuvent tout simplement plus vivre sans cette ressource. Et ce type de dépendance à la fois individuelle et collective, on le voit assez tôt dans la Perse des Safavides. Et on le sait par les voyageurs français qui, au XVIIe siècle, constatent et sont d'ailleurs effarés du degré de dépendance de leurs interlocuteurs perses, y compris dans la bonne société, où en fait, on est vraiment dans l'addiction, c'est-à-dire que pour que le commerçant qui traite avec le voyageur français puisse tout simplement tenir debout et avoir les idées assez claires, il lui faut sa dose quotidienne d'opium. Et donc, il est avalé, il n'y a pas d'odeur. Ce n'est que vers cette époque qu'entre le tabac venu d'Amérique et la pipe à eau venue de l'Inde, eh bien, apparaît le narguilé, le hookah, la pipe à eau, qui va devenir le mode majeur de consommation, y compris dans l'espace public, d'un tabac très souvent mélangé à des substances stupéfiantes, que ce soit cannabis ou opium.
Dans les narguilés?
Dans les narguilés, étant entendu que avant, c'était plutôt par voie orale, que ces drogues étaient consommées.
Parmi ces voyageurs français, l'un d'entre eux, Jean-Baptiste Tavernier, décrit avec beaucoup d'humour les débits d'opium et leurs habitués à Ispahan, en Perse, qui se querellent tant qu'ils sont à jeun, mais quand la drogue commence à faire son effet, ils commencent aussi à faire la paix. L'un fait de grands compliments, l'autre fait de grandes histoires. Ils se montrent tous ridicules, et dans leurs actions, et dans leurs discours. Là, drogue comme lubrificateur des relations entre les individus. Cela aussi est vanté par un certain nombre d'auteurs.
Oui, et puis comme rite social. On voit bien que cette consommation est une consommation collective dans des lieux publics qui sont spécifiquement dédiés à cette consommation, ce qui indique l'ampleur de la vague de fond dans la Perse dès le XVIIe siècle.
Un autre voyageur que vous citez, Jean-Pierre Filiu, assimile ce cabaret à un vrai hôpital de fous. Une espèce d'assoupissement et de stupidité suit cette gaieté inégale et désordonnée, mais les Persans, bien loin de la traiter comme elle mérite, l'appellent une extase et soutiennent qu'il y a quelque chose de surnaturel et de divin en cet état-là. Toujours la rencontre entre le récréatif et le supposé religieux. Ou
l'exaltation mystique.
Alors, avançons, courons la poste. Avançons jusqu'à la période du 19e siècle, qui mérite effectivement qu'on s'y intéresse spécialement, y compris du côté européen, puisque c'est là que la mode des stupéfiants, des paradis artificiels, va trouver toute son ampleur. Mais déjà, il faut attacher quelque intérêt à l'intermède français, puisqu'il y a la conquête de l'Égypte, conquête avortée par Bonaparte, par Kléber, et un général qui se convertit à l'islam, François Menou, sous le prénom d'Abdallah, et qui décide, toujours la rencontre entre la sévérité morale et l'adhésion récréative, qui décide la prohibition du haschich par une ordonnance qui mérite d'être évoquée.
Effectivement, il y a à la fois la peur du commandement français en Égypte de voir ces braves soldats céder à la tentation du haschich, qui est très forte au Caire et ailleurs. Et puis, il y a aussi cette prévention sociale à l'égard d'une drogue plutôt populaire, très peu chère, et donc...
L'extase du pauvre.
L'extase du pauvre, et donc Abdallah Menou, qui lui avait convolé avec une égyptienne de noble lignée, eh bien, avait sans doute épousé dans le même élan les préjugés de classe de la noblesse égyptienne à l'encontre de cette herbe des pauvres. La certitude, c'est que, comme du temps des Mamelouks, comme au Moyen-Âge, la prohibition française n'a pas été beaucoup plus efficace. Et il semble qu'un certain nombre de soldats français, après la fin peu glorieuse de l'expédition d'Égypte en 1801, aient ramené quelques souvenirs stupéfiants dans leur barda jusqu'en France.
On trouve un écho de ces tensions jusque dans le monde académique français. Il faut évoquer la grande affaire des assassins et le rôle du professeur au Collège de France Sylvestre de Sacy, qui vient donner naissance, à partir d'un texte d'ailleurs incertain de Marco Polo, à la grande légende des assassins.
Alors effectivement, c'était bon, une petite douleur, mais voilà, il faut aller de l'avant dans la rigueur scientifique, démontrer qu'un aussi éminent arabisant que Sylvestre de Sacy, eh bien, s'était lamentablement trompé et avait apporté tout son crédit académique aux divagations, aux affabulations de Marco Polo. C'est une légende qui, jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les jeux vidéo, est extrêmement populaire, hein, l'idée que ce groupe de dissidents ismaéliens au Moyen-Âge, dans les montagnes de Syrie et de Perse, eh bien, aurait été sous l'emprise du haschich pour commettre ces assassinats. C'est un terme qui dérive directement de haschichine, l'injure qu'on jetait à la face de ces opposants, de ces terroristes.
Terroristes, le mot n'est pas d'époque, mais qui descendent pour assassiner les croisés, selon les ordres d'un personnage également mythique, qui est le vieux de la montagne.
Alors en fait, on a essayé de broder une légende. Marco Polo en est l'auteur principal, Sylvestre de Sacy lui a donné tout son crédit à tort, hein, comme quoi les fidèles de ce vieux de la montagne agissaient sous l'emprise du haschich et qu'on les aurait toujours sous l'emprise du haschich avant leur forfait, amenés dans un jardin où des vierges leur auraient prodigué des plaisirs ineffables et que c'est pour retrouver ces plaisirs qu'ils auraient commis de tels assassinats. La réalité, c'est que c'était tout simplement des fanatiques déterminés qui obéissaient à leur chef, qui ont d'ailleurs frappé non seulement les croisés, mais aussi des sultans et des califes qu'ils jugeaient hérétiques, et que c'est cette motivation, et non la consommation d'une drogue quelconque, qui était fondamentale. Mais ça n'a pas empêché le mythe des assassins de prospérer jusqu'à aujourd'hui.
On trouve un écho parmi ceux qui ont cru ou affirmé que les terroristes récents, en France et ailleurs, étaient eux-mêmes mus par la consommation de drogue. Il semble qu'il n'en soit rien.
En effet, il y a consommation de drogue comme dans toutes les zones de guerre par les combattants qui ne veulent pas céder au sommeil, mais dans l'action elle-même terroriste, ces tueries de masse qui ont endeuillé jusque Paris dans les conditions qu'on sait en 2015, c'était, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, la motivation, la détermination, le fanatisme et non une substance quelconque qui avait armé le bras de ces tueurs abjects.
Le 19e siècle, c'est celui où j'évoquais les paradis artificiels de Baudelaire, où parmi le monde des écrivains, le hashish devient à la mode. Le club des hashishines est institué dans l'hôtel de Lauzun, au cœur de l'île Saint-Louis. Et il est fréquenté non seulement par Baudelaire, mais par beaucoup d'autres, par Flaubert et par Théophile Gautier, qui a laissé de nombreux textes pour évoquer les sensations que procurait le hashish. Voici un extrait de sa nouvelle qui s'appelle « Le club des hashishines », ils ont repris le terme, publié dans la Revue des Deux Mondes le 1er février 1846, qui est lu ici par Mélodie Horu dans « La fabrique de l'histoire » d'Emmanuel Laurentin sur France Culture, le 27 octobre 2011.
La dose d'une cuillerée suffit aux gens qui n'ont pas l'habitude de ce régal de vrais croyants. L'on arrose le hashish de quelques petites tasses de café sans sucre, à la manière arabe. Et puis l'on se met à table comme à l'ordinaire, car l'esprit du chanvre n'agit qu'au bout de quelque temps. Le couvert enlevé, j'allais m'asseoir, ayant encore ma raison, sur le divan, où je m'arrangeais le plus commodément possible pour attendre l'extase. Au bout de quelques minutes, un engourdissement général m'envahit. Il me sembla que mon corps se dissolvait et devenait transparent. Je voyais très nettement dans ma poitrine le hashish que j'avais mangé, sous la forme d'une émeraude d'où s'échappaient des millions de petites étincelles. Les cils de mes yeux s'allongeaient indéfiniment, s'enroulant comme des fils d'or sur de petits rouets d'ivoire qui tournaient tout seuls avec une éblouissante rapidité. Autour de moi, c'étaient des ruissellements et des écroulements de pierreries de toutes couleurs, des arabesques, des ramages sans cesse renouvelés, que je ne saurais mieux comparer qu'au jeu du kaléidoscope. Je voyais encore mes camarades à certains instants, mais défigurés, moitié homme, moitié plante, avec des airs pensifs d'ibis debout sur une patte, d'autruches battant des ailes, si étranges que je me tordais de rire dans mon coin, et que pour m'associer à la bouffonnerie du spectacle, je me mis à lancer mes coussins en l'air, les rattrapant et les faisant tourner avec la dextérité d'un jongleur indien.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voilà de la drogue, on ne s'y connaît pas, sous la plume de Théophile Gautier. Hashishine, d'ailleurs, ce n'est pas une façon de ratifier la thèse de Sylvestre de Sacy.
Non, c'est justement les consommateurs de hashish. Ils ne se considèrent absolument pas comme des assassins eux-mêmes, mais en revanche, ils consomment le hashish. Mais c'est intéressant de le souligner, on l'a entendu dans cet extrait, c'est sous forme de compote, de dawamesque, qui est absorbé à la cuillère avec du café arabe pour un peu l'émoustiller. Et donc, ce n'est pas du tout le joint ou le chilom qu'on a pu connaître plus près de nous.
Et comment cette marchandise arrive-t-elle à Paris? On en a une idée?
Elle est absolument légale à l'époque. La prohibition avait été proclamée par le commandement français en Égypte, mais en France, ce n'est pas le cas. Et cette drogue, comme d'autres, sera non seulement consommée, mais prisée, célébrée par des personnes qui occupent une place éminente sur la scène culturelle parisienne.
Mais non pas dans le monde politique, semble-t-il.
Semble-t-il. Mais on a un témoignage assez hilarant en 1850 d'une soirée cannabinique au consulat général de France à Jérusalem, où effectivement le consul général, pour brider les débordements de ses hôtes sous influence, s'était bien gardé de partager leurs agapes.
Cette seconde moitié du 19e siècle, à laquelle vous abordez Jean-Pierre Filiu, c'est l'apogée du libre commerce. Et évidemment, l'affaire des guerres de l'opium imposée par le Royaume-Uni à la Chine est à cet égard tout à fait symptomatique.
En effet, on a l'Angleterre qui, pour équilibrer son commerce avec la Chine, va y semer l'addiction à l'opium par deux guerres sanglantes, la France se joignant à la seconde, ce qui du coup va créer une incitation à la production de masse de l'opium en Perse et en Turquie, donc dans l'Empire ottoman en général, pour alimenter ce marché chinois qui paraît inextinguible. Donc on a vraiment une mondialisation qui fait tourner la tête dès cette époque, vu qu'on a la majorité des
même
bateaux,
sans drogue, même sans drogue.
Même sans drogue, vu que la majorité des navires américains qui vont charger à Istanbul, eh bien, ils vont charger de l'opium à destination de la Chine avant que les États-Unis eux-mêmes développent leur propre réseau de fumerie d'opium à partir de la communauté chinoise et ensuite d'autres Américains qui ne sont pas d'origine asiatique.
Cette tension de toujours entre le lucre et le moralisme s'éprouve puisque la Grande-Bretagne, qui fait la guerre de l'opium en Chine, est en même temps très moralisante en Égypte.
Où elle reprend à son compte, après l'occupation du pays en 1882, la prohibition du haschich que le Khédive, le souverain local, avait édicté sur une base nationaliste. Et donc on a le même pays qui a fait la guerre, et une guerre destructrice, pour que l'opium, d'ailleurs souvent cultivé en Inde, soit commercialisé librement en Chine. Et bien ce même pays va introduire une absurdité en Égypte où, jusqu'aujourd'hui, une bonne partie de la population consomme le cannabis, mais officiellement tout cela est illégal, ce qui évidemment va permettre aux trafiquants de tous ordres de faire des bénéfices considérables, justement à cause de la prohibition.
On rencontre là une donnée permanente de ce sujet dont nous traitons aujourd'hui, Jean-Pierre Filiu, c'est-à-dire les drogues d'Orient et un peu d'ailleurs.
Et un peu d'ailleurs, avec cette tension moraliste du protestantisme anglo-saxon qui va finir par l'emporter d'abord au Royaume-Uni, mais surtout aux États-Unis. Et ce sont donc les États-Unis qui, au début du XXe siècle, vont commencer à imposer un régime international extrêmement strict, hein, d'abord à l'encontre de l'opium, pour libérer la Chine de ce démon, de cette peste qui l'a ravagé de l'extérieur, mais on va avoir une surenchère qui va faire que le cannabis et d'autres drogues vont être autant stigmatisés, et donc plus aucune distinction entre ce qu'on appelle aujourd'hui les drogues douces et les drogues dures étant supposées être les seules à provoquer la dépendance.
Prohibition de l'alcool qui a été provisoire avec les effets qu'on sait du côté du grand banditisme, mais prohibition aussi des substances dont nous parlons. Nixon, par exemple. Richard Nixon déclare vraiment la guerre à la drogue, alors qu'à l'époque, on estime 100 000 héroïnomanes dans le pays.
Donc, on est à la fin des années 60 et c'est l'âge d'or de ce qu'on appelle la French Connection, la filière française. Parce qu'évidemment, comme souvent aux États-Unis, tout le mal vient de l'étranger. Hein. Ça peut évidemment pas être une production locale. Mais il y a derrière tout cela une réalité qui est que la pègre marseillaise est au cœur de l'approvisionnement aux États-Unis d'une héroïne qui est largement produite au Moyen-Orient avec un certain nombre de chimistes et de spécialistes français qui vont donc participer à ce trafic extrêmement lucratif.
C'est aussi le temps d'un film fameux auquel il faut s'attacher un instant, succès planétaire du film d'Alan Parker. On est en 1978, le film qui s'appelle « Midnight Express » et dont je vous fais entendre brièvement la bande-son. I got blues, babe.
those old Istanbul blues. Said, yeah, I got the blues, baby. Got those old Istanbul blues. 30 years in Turkey, baby. Ain't got nothing left to lose.
Dites-nous ce que ce film peut signifier pour nous aujourd'hui avec le recul. 1978.
Voilà, donc Midnight Express, c'est la chanson qu'on a entendue, le blues d'Istanbul. C'est celui d'un personnage qui a effectivement existé, un étudiant américain qui arrondissait ses fins de mois en trafiquant du haschich illégalement depuis la Turquie vers les États-Unis jusqu'au jour où il a été pris avec, comme on l'entend dans la chanson, 2 kilos dans ses chaussures et condamné à 30 ans de prison.
Ça devait arrondir beaucoup, donc.
Ça devait arrondir énormément, même s'il a été présenté comme une victime de l'arbitraire turc par la presse américaine. Mais surtout, les Turcs ont renvoyé à l'administration Nixon ses prétentions à mener la guerre contre la drogue en disant bah, vous voyez, ce sont des trafiquants originaires de votre pays qui sèment effectivement ces stupéfiants dans le monde entier. Donc il y a eu un bras de fer entre la Turquie qui refusait au même moment de céder aux diktats américains sur la production d'opium, qui était légale en tout cas dans certaines provinces turques. Et finalement, le trafiquant s'est évadé dans des conditions rocambolesques où on soupçonne une intervention directe de la CIA. Et donc, on a cette image hein, de la prohibition, de la répression. Mais il faut savoir l'histoire dans l'histoire. C'est que William Hayes a été très choqué par la vision agressive que le film a donnée d'une Turquie qu'il aimait beaucoup. Et une fois qu'il y avait prescription, il est revenu en Turquie pour présenter ses excuses pour tout le mal que Midnight Express avait fait à l'image de la Turquie et de son peuple dans le monde.
La Turquie a quel rôle dans cette grande question des drogues d'Orient et de leur commerce? Il y a eu des va-et-vient là encore du temps de Mustafa Kemal et ses successeurs.
Donc Mustafa Kemal, le futur Atatürk, le père de la Turquie moderne dans l'entre-deux-guerres, non seulement ne sera pas un producteur honteux d'opium, mais va essayer de valoriser cette production d'une drogue légale sur la scène internationale. Il va se battre pour avoir des quotas de production. Donc en Turquie, on est dans un état qui est prêt à imposer des restrictions à la production de stupéfiants, mais qui négocie cela sur la scène internationale, d'où le caractère tout à fait sensible de Midnight Express, où d'un côté, à ce moment-là, donc au début des années 70, l'administration Nixon voulait faire pression sur la Turquie, et la Turquie, de manière nationaliste, donc on a une production nationaliste, eh bien refuser ces diktats venus de l'étranger.
Pour contraste, on peut s'intéresser un moment, évidemment, et c'est d'actualité, à la République islamique d'Iran, puisqu'on voit qu'elle a pendu des milliers de trafiquants supposés, et qu'en même temps, c'est le pays qui connaît le plus d'addictions de masse.
Alors, il faut toujours avoir en tête la réalité derrière l'idéologie de ces islamismes soi-disant triomphants. Lorsque l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en 1979, il y a sans doute 500 000 de toxicomanes dans le pays, ce qui est déjà une réalité accablante. Aujourd'hui, on est à 6 millions, voire plus. Ça veut dire que non seulement la République islamique a totalement échoué à endiguer un tel fléau, mais que si on compare deux révolutions, hein, la révolution khoméniste et la révolution maoïste, eh bien dans la Chine qui était gangrénée par l'opium en 1949, Mao Tse-tung a, en une année ou deux, par les exécutions, par la rééducation, par une violence terrible, mais il a éradiqué ce fléau. Donc la République islamique d'Iran, non seulement, on le voit avec les exécutions récentes de manifestants, non seulement elle est abjecte du point de vue des libertés fondamentales et des droits élémentaires de ses citoyens, mais en plus elle est totalement inefficace quand il s'agit de lutter contre un fléau qui est censé être combattu par l'islam. On ne parle pas d'une drogue récréative, on parle d'une addiction de masse.
Il y a un autre pays où ces drogues ont une grande importance, le pavot en particulier, c'est évidemment l'Afghanistan, qui est également à cet égard une terre de pleine contradiction.
De pleine contradiction, parce qu'on voit que la progression stupéfiante de la culture du pavot,
c'est le cas de le dire,
eh bien, elle s'est accompagnée de la descente aux enfers de ce pays et de son peuple par la guerre. Et que, en fait, c'est une drogue de guerre qui permet d'alimenter les milices qui combattent l'occupation soviétique de 1979 à 1989, les différents partis dits Moudjahidine qui s'entre-déchirent de 1989 à 1994 pour le pouvoir à Kaboul et ailleurs, et enfin les talibans qui prennent le pouvoir à Kaboul en 1996 et qui, 5 ans plus tard, décrètent et mettent en œuvre la seule prohibition effective du pavot en Afghanistan, sans doute pour s'attirer les bonnes grâces des États-Unis, alors qu'ils ne veulent pas lui céder Ben Laden et Al-Qaïda.
Mais ceux d'aujourd'hui sont, semble-t-il, très tolérants à l'égard, c'est une litote, à l'égard de la culture du pavot, puisque c'est l'essentiel de leur capacité d'exportation.
Effectivement, mais là aussi, il faut reprendre l'histoire, c'est-à-dire que quand les Américains interviennent et renversent les talibans, ils trouvent un pays qui était littéralement libéré du pavot. Ça n'avait été possible que par la structure autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, du régime taliban, qui avait pu imposer cette prohibition totale. Or, très vite, la culture va reprendre, entre autres, parce que c'est toujours la question: quel est l'ennemi principal, quelle est la contradiction secondaire? L'ennemi principal étant les talibans du point de vue des Américains, ils vont s'acoquiner les seigneurs de la guerre, dont la plupart ont partie liée avec le trafic de l'opium, d'où une progression spectaculaire de la production d'opium et de la culture du pavot à partir du moment où les talibans sont renversés. Mais pour les États-Unis, c'est peu important parce que ce pavot qui donne cet opium, qui donne cette héroïne, eh bien cette héroïne, elle va en Europe, elle ne va pas aux États-Unis. Donc pour Washington, c'est une question secondaire.
C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans ce reportage que je vous propose de Nicolas Repère dans la province de Nangarhar en Afghanistan, qui évoque précisément les hypocrisies d'une lutte prétendue contre la production de pavots. Reportage diffusé dans Ailleurs sur France Inter le 15 avril 2014.
Le nombre d'hectares cultivés a été multiplié par 36 en 13 ans. Le correspondant de RFI pour France Inter, Nicolas Repère, a pu se rendre dans l'est du pays avec l'armée afghane où aucune éradication des champs de pavots n'a été lancée. Reportage.
Les champs de pavots sont au bord des routes dans la province du Nangarhar. Les militaires afghans qui sillonnent la région passent à côté pendant des kilomètres sans même y faire attention. Ce qui ne surprend pas Ahmad Kaïs, sergent au sein de la 4e brigade.
Notre objectif est d'avancer et de sécuriser le district. On doit le débarrasser des ennemis. On est concentré sur les bombes artisanales. Le reste, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas une mission contre la drogue. Nous nous efforçons principalement d'éviter les mines afin de rentrer sans dommages, comme nous l'a demandé notre commandant.
Les soldats en rigolent presque. Ils savent pourtant que ce pavot sera transformé en opium et participera au financement des talibans qu'ils combattent. Le général de brigade Dadanola Wang confirme que l'ordre n'a pas été donné d'éradiquer ces champs.
C'est le ministère afghan de la Défense qui définit nos actions. Jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucune directive nous demandant de lancer une campagne d'éradication des champs de pavots. Donc, on ne s'en occupe pas. Dans le passé, nous avons mené des actions, mais rien dans ce sens cette année. Bien sûr, si on nous donne l'ordre d'agir, nous le ferons.
C'est un reportage, Jean-Pierre Filu, qui renvoie directement à la très belle photo qui orne votre ouvrage, à la base de notre émission d'aujourd'hui, Stupéfiant Moyen-Orient, où on voit effectivement un char britannique passer devant un champ de pavots tout rose.
Effectivement, un champ de pavots tout rose et une belle hypocrisie d'État, vu qu'on a toléré cette culture pendant les 20 années de présence occidentale en Afghanistan et que quand les talibans ont lancé leur assaut final sur Kaboul, les seuls provinces où il y a eu des combats réels ont été les provinces productrices de pavots, parce que là, les seigneurs de la guerre affiliés au gouvernement essayaient de défendre leur gagne-pain avant de se rallier aux talibans. D'ailleurs, une des premières décisions des talibans a été un échange de prisonniers pour récupérer aux États-Unis un trafiquant d'héroïne notoire qui désormais leur sert avec d'autres pour écouler cette drogue sur le marché international.
Partons encore, Jean-Pierre Philippe, pour un autre pays très marqué par cette histoire des drogues à l'intérieur et au dehors, c'est le Yémen, où c'est le khat qui est une passion spécifique, un substitut de café.
Alors là, c'est aussi fascinant. J'avoue que je ne me rendais pas compte, avant de me lancer dans cette recherche, l'écriture de ce livre, à quel point le khat que j'identifiais au Yémen était récent, que c'est en fait pour remplacer comme culture d'exportation le café, quand le mocha yéménite a été supplanté par le java indonésien, que le khat s'est répandu et que c'est en fait au cours du demi-siècle écoulé que le khat est devenu vraiment un marqueur identitaire pour la société yéménite, avec une consommation qui absorbe désormais 1, 2, 3, 4 heures chaque jour et une portion évidemment correspondante du budget des familles.
C'est encore une drogue de caractère végétal.
De caractère végétal et à consommation sociale. On consomme dans des mafrages, dans des salons dédiés. Et plus on a une position éminente dans la société, plus ce salon est ouvert et offre le khat de la meilleure qualité pour le mastiquer ensemble et parler non seulement de l'état du monde, mais aussi de questions très concrètes que l'on doit régler à la faveur de ces moments de partage.
Nous allons, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Filu, achever notre tour du Moyen-Orient à la lumière de cette problématique des drogues et de leur effet de toutes sortes de manières par, bien sûr, la Syrie que vous connaissez si bien et qui est en fait devenue le premier narco-État de la planète.
Effectivement, tout ça est lié à cette guerre impitoyable déclenchée par Bachar el-Assad contre son propre peuple depuis 2011 et afin de complètement s'autonomiser à l'égard de sa société, eh bien, le despote syrien a développé une production industrielle de captagon. C'est une amphétamine extrêmement addictive. Alors, comment a-t-il procédé? Ben, d'abord, c'est une ressource en devise très alléchante, hein, vu que la mise de fonds est minime pour un profit énorme.
C'est la principale ressource de devise du pays.
Aujourd'hui, oui, en tout cas du régime Assad. Et puis, il y a un marché solvable et semble-t-il inextinguible tout proche, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la péninsule arabique et le Golfe en général, où ce captagon est consommé plutôt dans les classes moyennes. C'est une drogue qui a une image active, une image sociale valorisante, même si très vite, hein, l'addiction l'emporte, mais au début, tout va bien.
C'est or, chic, c'est chic.
C'est chic, c'est tendance, ça se répand chez les uns ou chez les autres. Et donc, la Syrie est toute proche. Et en Syrie, c'est le frère du dictateur syrien, Maher el-Assad, qui dirige les troupes de choc du régime, qui accorde sa protection aux ateliers de production, aux convois qui vont soit vers la Jordanie, soit vers le Liban, et à partir de là, qui vise l'Arabie saoudite et les pays voisins, donc avec des ressources colossales qui sont ainsi directement versées à la dictature.
Et qui permettent à celle-ci de durer. Sans le captagon, ce serait peu vraisemblable.
Vu le caractère sévère des sanctions internationales, le captagon permet au régime Assad de s'en abstraire et de faire que les sanctions pèsent exclusivement sur la population et épargnent les hiérarques du régime.
Eh bien voilà, me semble-t-il, Jean-Pierre Filu qui confirme à quel point cette réflexion sur les drogues du Moyen-Orient éclaire bien au-delà d'elle-même sur les équilibres internationaux et sur les relations entre les peuples et les États.
Voilà, c'est pourquoi j'avais osé comme sous-titre « Histoire de drogue, de pouvoir et de société ».
Eh bien, ce livre est paru aux éditions du Seuil tout récemment. Tout récemment, Jean-Pierre Filu, je renvoie bien sûr nos auditeurs et nos auditrices. Vous allez pouvoir le transporter en Ukraine, si je comprends bien ?
Oui, effectivement. Dans 2 semaines, je serai à Kiev pour délivrer un enseignement sur la dimension moyenne-orientale de l'agression russe en cours contre ce pays.
Je renvoie aussi à votre livre majeur qui s'appelle « Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient depuis 395 », publié également au Seuil. Et puis on peut se référer très utilement à votre site qui s'appelle « Un si proche Orient ». Vous le tenez vivant depuis quand ?
Depuis 2015, sur donc le site du Monde.
Eh bien, il va pouvoir dialoguer désormais avec le nôtre. Je donnerai évidemment les références avec divers autres ouvrages que vous pourrez consulter pour élargir le champ de votre curiosité. Vous trouverez bien sûr la référence des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez réécouter et balado-diffuser. Certains auditeurs me disent qu'il faut revenir par moment à cette formule et balado-diffuser notre émission.
Je suis arrivé à Istanbul. Tout de suite, ils ont vu que j'étais cool. Ils m'ont fait fumer des loukoums. J'ai perdu la boule. J'ai fait un trip empoisonné. Oh, y'a la gueule des pieds. Et j'ai rencontré Haïti. Le Bosphore s'estompait. Entre les minarets. Un peu partout sur son cheval. Atatürk.
Avec en arrière-plan la chanson La Mosquée du groupe français Imago, 1976. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Christophe Michou, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et Joséphine Lafaille, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, la précieuse Clary Monac.
Ben, je vais lui faire un brin de causette dans ma camionnette. Je suis revenu rue de la Huchette. Et tous les soirs je fais la quête. J'ai mon pipeau, mes petites clochettes.
Un grand courant et mes baskets.
Je suis malheureux et criblé d'aide.
T'as pas 100 balles, un métro, une grève douce ou un esquimau.